À ça, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Les disciples n'ont pas compris cela. Ce que Jésus a voulu dire, c'est qu'il allait revenir tel qu'il est parti. Et au lieu de venir sur terre, il allait attendre son épouse dans le ciel. Son épouse, c'est l'Église, ce sont tous ceux qui lui appartiennent. Ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas, parce qu'on a une religion qu'on va partir. C'est parce que c'est uniquement ceux qui ont lavé leurs vêtements dans le sang de Christ, qui sont vraiment des enfants de Dieu par une nouvelle naissance. Alors, Jésus, et cela a été expliqué beaucoup plus clairement dans le livre de Paul aux Thessaloniciens, où il a dit « La trompette sonnera, la voix de l'archange sera entendue, et puis nous qui sommes vivants, nous serons arrachés de ce monde à la rencontre du Seigneur dans les airs. » Alors, ça s'appelle l'enlèvement de l'Église. Jésus a dit à la fin de l'Apocalypse, « Oui, je viens bientôt. » Et la réponse est « Amen. Viens Jésus-Christ. Viens Jésus-Christ. » Alors, les gens disent toujours, vous dites toujours que le Seigneur va venir bientôt. Mais vous savez, quand Jésus a dit « Je viens bientôt », ça fait 2000 ans, hein? Alors, 2000 ans, les gens ont attendu. Et qu'est-ce qui vous fait croire que c'est maintenant plutôt que dans 2000 ans de plus? C'est que le Seigneur a laissé des signes. Oui, il n'a laissé aucun signe pour l'enlèvement. Attention, aucun signe pour l'enlèvement. Mais il a laissé des signes pour son retour en gloire. Alors, attention maintenant, attention. Il y a dans la Bible énormément de signes. Je vais vous en donner trois ce soir, des signes de son retour en gloire. Trois signes. Emmanuel Bozzi vous en donnera d'autres signes dans les deux semaines qui suivront. Donc, il y a beaucoup de signes. Ce sont ces signes-là qui manquaient pendant les 2000 ans. On n'avait pas tous ces signes qu'on voit actuellement. C'est ça. Ici, c'est le retour de Christ en gloire. Il va revenir sur terre. Il descendra comme il est parti. Je vais avoir tout un message là-dessus. Je vais avoir beaucoup de messages sur beaucoup de différents points de la prophétie. Il va venir sur la montagne des Oliviers. Mais avant cela, il y a une période de tribulation qui durera 7 ans. 7 ans de tribulation. Alors, beaucoup de pasteurs prêchent, et je les ai entendus, que les 7 ans commencent au moment de l'enlèvement. C'est faux, ça. Les 7 ans ne commencent pas à l'enlèvement. Les 7 ans, d'après le livre de Daniel, commencent quand l'Antichrist, cet homme de péché qui va venir, va faire un pacte avec les Juifs. Alors, dans le passage qu'Emmanuel va lire maintenant, vous allez voir une église troublée, une église triste, une église pleine de points d'interrogation. Nous allons voir cela maintenant. Je vais demander à Emmanuel de lire le passage. Alors, gardez votre doigt dans le passage biblique de ce soir, parce que c'est très important. Dans ce passage, on va trouver 3 signes qui montrent que le retour de Christ en gloire est très proche. 2 Thessaloniciens 2, 1 à 3. 13, je crois.
2 Thessaloniciens, si vous avez votre Bible, chapitre 2, verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire, qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore est disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité.
Les signes précurseurs avant le retour en gloire. Je vous ai dit que quand l'enlèvement aura lieu, il y aura donc au moins les 7 ans de tribulation avant le retour en gloire. Mais la tribulation ne commence pas le jour de l'enlèvement. Pourquoi? Parce qu'il est dit en Daniel que l'Antichrist va faire un pacte avec les Juifs. Il sera donc à la tête des nations. Mais dans le passage, il est dit qu'il ne sera pas connu avant l'enlèvement de l'Église. On ne saura pas qui c'est l'Antichrist avant l'enlèvement. Donc c'est évident que le jour après l'enlèvement, il n'est pas prêt à faire un pacte avec les Juifs. Il faut qu'il arrive à être à la tête des nations et qu'il gagne la confiance des Juifs pour qu'ils soient prêts à faire un pacte avec lui. Alors ça va prendre 1 an, 2 ans, voire même 3 ans. Alors même si ça marche vite, ça, il faut penser au moins 1 ou 2 ans. Donc la période entre l'enlèvement et le retour de Christ, peut-être donc de 8 ans plutôt que 7 ans ou 9 ans. Alors, l'idée, c'est que si on voit les signes qui précèdent son retour en gloire, vous enlevez encore 9 ans et ça nous rapproche d'autant plus. Si on voit déjà des signes de sa deuxième venue, déjà, ça veut dire que sa première venue est à la porte. Vous me comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faut ramener cela de 8 ou 9 ans avant. Alors, si on voit déjà des signes maintenant, ça veut dire que sa venue pour nous est très, très, très proche. Maintenant, on va voir ce passage qui dit: et ne vous troublez pas. Pourquoi il a dit ça? Parce que quand Paul était à Thessalonique, il leur a dit qu'il y aura l'enlèvement de l'Église et qu'il y aura aussi l'Antichrist qui va suivre. Alors, à ce moment, il y avait énormément de persécutions autour de cette église. Les gens étaient mis à mort et tout. Alors, ils ont dit, oh là 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 là, on est déjà dans la tribulation. En plus de ça, il y avait des faux docteurs, des faux pasteurs qui sont venus en disant, ah oui, 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 vous êtes déjà dans la tribulation. Et les pauvres, ils avaient raté l'enlèvement. Ils étaient vraiment... À propos, si vous voyez l'Antichrist, sachez que vous avez manqué l'enlèvement. Hein? Parce que vous ne devez pas le voir. Hein? Si vous le voyez, c'est que vous l'avez manqué. Alors, donc, on va voir cette église troublée et Paul est en train de les calmer, de les encourager, de les dire non, non, non. Vous n'êtes pas... Parce qu'avant tout cela, il faut qu'il y ait trois choses. Nous l'avons vu. L'apostasie, la révélation de l'impie, c'est-à-dire la révélation de l'Antichrist, et le troisième qui va arrêter les sacrifices du temple, la construction du temple. Trois choses qui vont précéder le retour de Christ en gloire. Trois choses. L'Antichrist sera révélé, il y aura l'apostasie, il y aura la construction du temple. Tout ça avant. Alors maintenant, on va voir, est-ce que quelques-unes de ces choses sont déjà présentes maintenant? Est-ce qu'on peut voir déjà l'une de ces trois choses? On va commencer par l'apostasie. L'apostasie ne veut pas dire fausse doctrine. Parce qu'on avait toujours les faux docteurs depuis le début. Mais l'apostasie, ça veut dire des gens qui prêchaient comme il faut, et puis tout d'un coup, ils changent et ils mettent de l'erreur dans leur... Ils font un compromis avec la vérité. Peut-être tout n'est pas faux, mais il y aura la semence de ce qui est faux. Il y a un compromis avec la fausse doctrine. Ça s'appelle l'apostasie. Et l'apostasie est tellement forte. J'ai parlé l'autre jour avec Fernand Legrand. Il a dit il va écrire une lettre ou une brochure sur des gens qu'il connaît qui ont quitté la bonne doctrine pour tomber dans l'erreur. Et ça serait intéressant à voir. Il va nous l'envoyer. C'est-à-dire que ça arrive de plus en plus. Les gens qui autrefois prêchaient et maintenant ils ne prêchent plus. Il y a trois choses qu'ils attaquent. La véracité de la Bible, c'est-à-dire, ils disent, oui, la Bible est un bon livre, mais ce n'est pas la parole de Dieu, ça contient quelques passages. On peut dire, oui, il y a quelques passages. Il y a un pasteur qui m'a dit, vous savez, si la parole vous parle, c'est la parole de Dieu. Si ça ne parle pas, ce n'est pas la parole de Dieu. Alors là, aujourd'hui, je n'ai pas lu la parole de Dieu, ça ne m'a pas parlé. Ici, c'est la parole de Dieu, depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Toute la Bible est la parole de Dieu, mais elle est attaquée de plus en plus, et les pasteurs, au lieu de citer la Bible, ils citent les philosophes, les savants, les brochures. Il y en a un qui est arrivé au pupitre avec Reader's Digest, avec le... Et il allait faire son message tiré de Reader's Digest plutôt que de tirer son message de la Bible. Ça s'appelle l'apostasie. Est-ce qu'on le voit aujourd'hui un peu, un tout petit peu de ça aujourd'hui? Non seulement que la Bible est attaquée, mais la personne de Jésus est attaquée. Les trois choses. La Bible, la personne de Christ. Ils disent, oh, Jésus était un homme merveilleux. Un grand prophète. Oh, il était quelqu'un d'extraordinaire. Et nous disons, oui, il était Dieu. Ah non, pas Dieu, non, pas Dieu. Du moment que vous enlevez la divinité de Jésus-Christ, son sacrifice sur la croix n'a aucune valeur. C'était un homme pécheur qui meurt comme un autre homme pécheur, comme les deux autres brigands. Sa mort n'a qu'une valeur que s'il est le Fils de Dieu sans péché. Alors, ils attaquent cela, parce que ça attaque le cœur de l'Évangile. Ils attaquent la résurrection, si bien sûr. Mais la troisième chose, surtout qu'ils attaquent, c'est quand Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Il n'a pas dit un chemin, une vérité, une vie. Il a dit le chemin, la vérité, la vie. Et puis, si vous n'avez pas compris, il a dit « Nul ne vient au Père que par moi ». Ça, c'est attaquer plus que toute autre chose. Vous ne voulez pas dire que tout le monde doit accepter Jésus pour aller au ciel. Oui, c'est ça. Oh, écoutez, hein, non. Non, parce qu'il y a d'autres religions sur la terre et qui prêchent autre chose. Vous ne pouvez pas quand même être tellement étroit que vous ne croyez qu'il n'y a que par Jésus qu'on peut aller au ciel. Et nous disons oui. Oh là là, alors là. Alors, ça, c'est attaquer de plus en plus. Et quand vous allez sortir et vous dites, ce n'est uniquement par Christ. C'est par Christ que vous allez au ciel. Vous allez avoir des gens qui vont vous attaquer verbalement, sinon pas avec deux poings. Parce qu'ils ne veulent pas accepter ça. Et ça s'appelle l'apostasie. Mes chers amis, on voit cela aujourd'hui. Déjà, au moins 8 ans avant son temps. Et qu'est-ce qui se produit quand on a l'apostasie? Le déclin des mœurs. Vous savez, depuis 1950, depuis le début du XXe siècle, les mœurs commençaient à descendre un tout petit peu. Les mœurs. Et là, à partir de 50, ça plonge comme cela, avec l'avortement partout, les défilés des homosexuels, la drogue. J'ai appris l'autre jour qu'ici en France, maintenant, les jeunes qui ont pendant longtemps abandonné le vin pour le Coca-Cola et tout le reste, maintenant, ils trouvent très bien de boire jusqu'à ce qu'ils soient ivres. L'idée, c'est d'être ivre, d'être complètement dans la débauche pour que tout se passe. Ça, c'est la dégradation des mœurs. Vous savez que chaque empire s'est écroulé par l'intérieur, rongé par un verre de débauche et de déclin dans les mœurs. Et aujourd'hui, on voit les drogués, on voit tout ça. Et ça monte jusqu'au plus haut que les politiciens sont complètement corrompus. Et je pèse mes mots. Ma femme a dit l'autre jour, j'ai dit, voilà, ça va très haut, la corruption dans les gouvernements. Elle a dit, je ne crois pas qu'il y a un politicien honnête maintenant. Vous savez, c'est terrible. C'est-à-dire que si le président et si le premier ministre et tout le reste, tous les autres sont corrompus, qu'est-ce que vous voulez que le reste du pays devienne? Ça, c'est le monde dans lequel on vit actuellement. Actuellement, et on est 7 ou 8 ans avant le moment où tout cela doit se passer. Alors, si on voit tout ça maintenant, vous voyez à quel point nous sommes prêts de l'enlèvement? Vous voyez à quel point nous sommes prêts? Parce que l'apostasie, c'est avant son retour en gloire et on le voit déjà maintenant. Le deuxième, c'est que vous avez vu l'homme impie. Vous avez vu ça dans le passage. Vous avez vu l'homme impie, l'homme du péché, l'Antichrist. Je vais prêcher un message sur l'Antichrist. Je ne vais pas prêcher tout ça ce soir. Je vais vous donner quelques idées. La première question, que quand on parle de l'Antichrist, qui c'est? Vous savez, les gens, depuis le temps de l'apôtre Paul jusqu'à maintenant, ont toujours cherché l'Antichrist. Au temps de l'apôtre Paul, c'était Néron, parce qu'il persécutait, il était à la tête de l'Empire romain, c'était un empire mondial, au moins le monde à cette époque-là, et il était corrompu, il persécutait les chrétiens à outrance, c'est Néron. Eh bien non, ce n'était pas Néron l'Antichrist. Alors, les années passaient, puis Charlemagne, c'est lui, ah non, c'est pas lui non plus. Puis un peu plus tard, c'est Napoléon. Non, ce n'est pas Napoléon. Alors, on continue jusqu'à ce qu'on arrive dans notre époque, au moins dans le mien, pas forcément dans le vôtre. Hitler, que j'ai entendu souvent à la radio, quand il haranguait la foule, il était un grand orateur qui parlait constamment. Alors, quand il parlait, tout le monde tremblait. Et les gens ont dit, c'est l'Antichrist. C'est l'Antichrist. D'autres ont dit, non, ce n'est pas lui l'Antichrist, c'est Mussolini. Parce que Mussolini, c'est à la, il est en Italie, et l'Italie, c'était le centre de l'Empire romain. Alors, c'est Mussolini. Puis, ce n'était pas Mussolini non plus. Alors, on attend. Et puis, tout d'un coup, il arrive quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre qui, personne n'attendait, qui parlait avec une façon extraordinaire, comme l'Antichrist lui-même. Il s'appelle Barack Obama. Alors, on rit, mais je vais vous dire une chose. Savez-vous que la moitié des gens dans l'église où je suis membre en Amérique croient que c'est Obama l'Antichrist? Ça se répand maintenant comme un feu de prairie. Qui est l'Antichrist au fait? Est-ce que quelqu'un le sait? Il est fort possible que les gens très très haut, les milliardaires, les gens qui tirent les ficelles de très haut, de très très haut, savent qui c'est. Ça, je n'en sais rien, mais c'est possible. Mais nous ne le savons pas. Et ces gens-là, s'ils le savent, ils savent qu'ils doivent garder le secret, autrement c'est leur peau. Donc ils ne vont pas le divulguer. Donc, il garde ça précieusement. Alors, qui est l'Antichrist? L'Antichrist est d'abord un Assyrien. Regardez dans votre Bible maintenant. C'est plusieurs fois, en Ésaïe, on voit cela. Mais je ne vais pas vous faire parcourir tous les passages en Ésaïe. Vous allez regarder en Ésaïe 31. Ésaïe 31. Et nous lisons là, « Et l'Assyrien tombera sous un glaive qui n'est pas celui d'un homme. Et un glaive qui n'est pas celui d'un homme le dévorera. » Verset 8. « L'Antichrist mourra par un glaive qui n'est pas celui d'un homme. » L'Assyrien était cet empereur, pour ainsi dire, sur l'Assyrie, s'appelait Sanchérib, dans la Bible, Sanchérib, c'est lui, et que le monde redoutait. Il prenait ville après ville, ville après ville. Finalement, il est venu à Jérusalem. Mais Esaïe dit, par la parole de Dieu, il ne prendra jamais Jérusalem. Il n'a pas pris Jérusalem. L'ange est sorti la nuit pour tuer son armée. Et cet Assyrien est rentré chez lui et ses deux fils l'ont tué. Donc il était tué par le glaive d'un homme. Après cela, il n'y avait aucun Assyrien sur l'horizon. Après cela, on passe à l'Empire babylonien. On ne parle plus des Assyriens. Les Assyriens, c'était quoi? Les Assyriens étaient un peuple qui vivait à Ninive, dans le nord de l'Irak actuel, dans le pays où se trouvent actuellement les Kurdes. Alors, excusez-moi, mon ordinateur est tombé en panne. J'ai voulu regarder si les Kurdes sont les anciens Assyriens ou si les Assyriens simplement vivaient dans le pays où vivent actuellement les Kurdes. Ça, je ne sais pas, mais un de ces jours, je vais regarder pour savoir. Toujours est-il que les Assyriens étaient des diaboliques, des occultistes. Ils étaient vraiment des personnes les plus horribles sur Terre. C'était vers eux que Dieu a envoyé pauvre Jonas. Il ne voulait pas y aller, hein. Moi, je vous le dis. Hein. Il ne voulait pas y aller. Vous connaissez l'histoire de Jonas, il a fini dans le ventre d'un poisson. Hein? Mais il a fini par aller là-bas quand même, annoncer la parole. Et la ville s'est convertie. Mais les Assyriens Les Assyriens étaient toujours connus comme des gens occultes, diaboliques. Alors, l'Antichrist sera un Assyrien. Est-ce que les Assyriens sont les Arabes? Non. Non, pas du tout. Les Assyriens sont un peuple à part. Il y a un village près de Toulouse où je vivais qui était habité presque uniquement par les Assyriens. Et on ne pouvait pas les voir différents que les Français. Franchement, un Assyrien, un Français, ça ressemble comme deux gouttes d'eau. Donc, c'est un peuple très intelligent, mais très diabolique. Alors, l'Antichrist sera un Assyrien. Probablement, il a fait ses études dans l'Ouest. Il se trouve peut-être qu'il est aux États-Unis, on ne sait pas où il est. Une chose est sûre, c'est qu'il vit aujourd'hui, qu'il est prêt à prendre le pouvoir. Vous dites, mais comment vous pouvez dire ça? Parce qu'il faut qu'il soit là quand l'enlèvement de l'Église aura lieu. Étant donné que tous les signes que vous allez voir dans les semaines à venir sont toujours... Tous les signes sont déjà là pour son deuxième venue en gloire, et nous sommes ici 8 à 9 ans avant. Alors, nous sommes très peu. Pour qu'il puisse régner, il faut qu'il soit vivant. Maintenant, je vais vous dire une chose que je pense moi-même, que je crois personnellement. Vous n'êtes pas obligé de le croire et ce n'est pas biblique. Donc c'est pour cela que je dois vous dire tout de suite, ce n'est pas biblique, hein? C'est mon idée. Mais c'est mon idée basée sur ma connaissance biblique. C'est que dans la Bible, nous trouvons que le diable essaie de mimer tout ce que Dieu fait. Dieu est une trinité, donc lui, il ne peut pas être une trinité, mais il est devenu une triunité. Il y a Satan contre Dieu, l'Antichrist contre Christ, et le faux prophète contre le Saint-Esprit. Donc, c'est une triunité qu'ils essaient de mimer. Tout ce que Dieu fait, Satan essaie de mimer. Rappelez-vous d'une chose. Avant que Christ paraisse devant le peuple, se dévoile, parce qu'il était là avant. Mais un jour, il s'est dévoilé. Me voici. Il a commencé, il a appelé les disciples de le suivre. Il a commencé son ministère. Il s'est révélé. Mais avant qu'il ne se révèle, il y avait son cousin, qui s'appelait Jean-Baptiste, qui était un orateur extraordinaire, qui prêchait avec une force terrible. Et les gens sont venus à lui, au Jourdain, pour se faire baptiser. Il dénonçait le péché de tout le monde. Il était un extraordinaire, à tel point que les gens sont venus en disant, « Est-ce que tu es le Messie ?» Il a dit, « Non, je ne suis pas le Messie. » Mais ils l'ont suivi. Et quand Christ était là, il a dit, « Voici l'agneau de Dieu, voici le Messie. » Alors, on aurait cru que, voilà, tout le monde allait suivre Christ immédiatement. Pas du tout. Ils ont dit, « Non, on reste avec Jean-Baptiste. » Donc, tout d'un coup, on avait deux messies sur terre, Jésus et Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'était pas le messie. Il a toujours refusé qu'on l'appelle le messie. Il a dit, je ne suis pas le messie. Je ne suis pas Élie. Je suis simplement une voix qui crie dans le désert. Mais il y a quelqu'un aujourd'hui qui est un orateur extraordinaire et qui a une influence sur les autres dirigeants des pays, qui essaie actuellement de réunir tous les pays du monde pour faire exactement ce que Eisenhower a voulu faire lui-même, un nouvel ordre mondial, un gouvernement mondial. Et Barack Obama travaille à droite, à gauche, sans relâche. Il ne s'arrête pas de se proclamer. Vous savez qu'en Amérique, on l'appelle le Messie. Beaucoup de gens l'appellent le Messie. Quand l'Antichrist arrivera sur scène, entre-temps, Obama risque de grandir et de grandir et de grandir. Il ne peut pas avoir deux Messies. Donc l'un doit disparaître. Personnellement, je crois que Barack Obama sera assassiné. S'il n'est pas tout de suite, ça sera quand l'Antichrist va se révéler. Toujours est-il qu'il pressent cela. Il pressent cela et il fait tout. C'est presque impossible de s'approcher de. C'est pas presque impossible. Et c'est impossible de s'approcher d'Obama. Il est gardé, il a une peur terrible d'être assassiné, mais une peur terrible quand il est allé en Égypte après avoir été élu. Écoutez-moi le chiffre maintenant, parce que je vais vous le donner. Il a amené avec lui 3000 gardes du corps. Il a rempli 10 avions de 300 personnes chacun pour garder sa personne. Il a peur d'être assassiné parce qu'il sait qu'il sera assassiné. Le précurseur est déjà là. Il est déjà sur place, à mon avis. Maintenant, je veux prendre le troisième signe. Le troisième signe, c'est la construction du temple. Il va cesser, le passage dit, il va cesser les offrandes au milieu de la semaine. Les 7 ans sont toujours divisés en 2 parties. 3 ans et demi et 3 ans et demi, la tribulation. La première 3 ans et demi, ce sont les méchants qui persécutent les bons. Dans la deuxième partie, ce sont les bons qui persécutent les méchants. Rappelez-vous de cela. Laissez-moi vous expliquer. Pendant la première partie, les 3 ans et demi, c'est l'Antichrist qui va tuer tous ceux qui n'acceptent pas la marque de la bête. Guillotiner, tuer les uns après les autres, un massacre terrible sur terre. À la fin de 3 ans et demi, le deuxième 3 ans et demi, c'est Dieu qui fait pleuvoir des fléaux sur terre, sur les méchants qui restent. Donc voilà, nous avons donc 7 ans divisés en 2 parties. Et au milieu de ces 7 ans, il va cesser les offrandes dans le temple. Ça le dit dans le passage là que nous avons lu. Mais pour qu'il cesse les offrandes, il faut qu'ils aient déjà fait des offrandes. C'est-à-dire, on va faire des offrandes pendant les premiers 3 ans et demi, et puis s'arrêter. Ah, mais vous dites, alors, dans ce cas-là, ils ont dit à Jésus, il fallait 40 ans pour monter le temple. Donc, le temple de son époque, il fallait 40 ans pour le construire. Alors, j'ai regardé et j'ai dit, voilà, il faut que le temple soit construit avant la tribulation. Alors là, je me suis dit, je suis coincé. Je suis coincé parce que je n'avais pas de réponse à cela. Parce que ça prend des années pour construire un temple. Alors, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que pour faire un temple, il faut avoir des architectes pour dessiner le temple. Il faut avoir... Mais il n'y a pas que ça. Mais il y a tous les meubles du temple, l'arche de l'Alliance, et tout. Il fallait tout ça. Et puis, les robes pour les sacrificateurs. Et puis, en plus, il fallait trouver les sacrificateurs, parce que ce n'est pas n'importe quel juif qui pouvait faire cette fonction. Oh là là, je dis, voilà, on n'a pas fini de la faire encore, n'est-ce pas? Donc, où en sommes-nous? Alors, j'ai réfléchi à beaucoup de choses. Quand un jour, on m'a dit, vous savez, il y a 15 ans de cela, vous savez, il y a un magasin dans la partie neuve de Jérusalem, il y a une vitrine là, avec le plan du temple. Alors, j'ai dit, oui, ah oui, c'est tout fait. Et tout le monde qui passe, il peut voir, le plan est déjà fait. Ah bon, au moins, le plan est fait, au moins. Je me suis dit, alors là, ils n'ont pas besoin de lutter pour ça, au moins. Et puis, c'était la dernière fois que j'étais en Amérique, j'avais l'occasion de parler dans une fête avec le père de Darlene. Darlene est la secrétaire de notre mission. Elle est venue ici, à Paris. Et j'étais avec elle et avec son père. Et son père a dit, on va se promener un petit peu. J'ai dit, d'accord. On est allé dehors, on se promène. Il a dit, j'aimerais vous dire quelque chose. L'année dernière, j'étais à Jérusalem. J'étais avec un groupe et on avait un guide juif. Parce que souvent, les guides sont arabes. Mais il a dit, non, cette fois, j'avais un guide juif. Il a dit, aujourd'hui, on va voir le site du temple. Et puis, il est venu un peu plus tard, il a dit, on ne peut pas. Je regrette beaucoup, mais les Arabes ont font quelque chose là-bas, sur le site du temple, et aucun juif est permis de monter. Donc, je ne peux pas vous y amener. Mais il a dit, voilà, ça ne fait rien, je vais vous amener voir quelque chose d'autre. Donc, on s'est promené au bâtiment de la trésorerie d'Israël. Et il a dit, bon, regardez. Alors, il a dit, moi, j'ai regardé, il y avait d'autres personnes dedans. Et puis, il a dit, venez maintenant, vous autres, vous qui êtes avec moi, mon groupe. Alors, on s'est réunis autour de lui, il a dit, suivez-moi maintenant. Alors, on l'a suivi, et il y avait des escaliers, il a allumé. On est entré dans le sous-sol. Quand on est arrivé dans le sous-sol, il a dit, j'ai vu quelque chose que je n'oublierai jamais de ma vie tout entière. Il a dit, là, devant mes yeux, étaient tous les meubles du temple. La table pour le pain, il y avait l'arche de l'Alliance, il y avait la table pour les parfums, il y avait tout. Il a dit, sur des cintres à ma droite, étaient pendues toutes les robes des sacrificateurs, tout fait déjà. Puis, il dit, c'était quelque chose que je n'oublierai jamais. Tout d'un coup, j'avais ma réponse à tout cela, mais quoi faire pour chercher deux autres choses, la vache rousse et les sacrificateurs. Et puis, il n'y a pas longtemps que j'ai appris qu'ils ont trouvé, au plus possible, les fils des descendants d'Aaron, et ils sont déjà en train d'apprendre comment faire leur service. Ils ont déjà choisi et leurs robes sont faites. En plus de cela, il y avait toute cette chose déjà accomplie, prête à être dévoilée. Quand j'ai vu et entendu tout cela, je me suis dit, s'ils ont tous les meubles, s'ils ont les gens, ils ont fait venir des vaches rousses. Ils avaient beaucoup de difficultés pour les trouver, mais ils les ont trouvées, ils sont maintenant en Israël. Je me suis souvenu de quelque chose. Vous savez que des oiseaux qui passent l'hiver dans le sud, qui migrent chaque année vers le sud, qui met dans leur cœur de le faire? Tout d'un coup, ils ont le désir de partir. Qui met ce désir dans leur cœur? C'est Dieu. Vous savez que pendant 2000 ans, le pays d'Israël était presque vide de juifs. Il fut un moment, vers 1700 et quelques, il n'y avait que 200 juifs dans tout le pays. 200. Et ça, pendant 2000 ans, aucun juif ne pensait pas aller. Puis tout d'un coup, début du XXe siècle, tout d'un coup, ici, là, des juifs, il faut que je retourne en Israël. Il faut que j'aille en Israël. C'est comme des oiseaux, il faut que je parte maintenant. C'est le moment de partir. Et les Juifs sont partis. Et les uns après les autres. Ils sont venus de la Russie en premier. Ils sont venus d'autres pays. des pays arabes aussi. Et ils ont commencé à construire une ville. La ville s'appelle aujourd'hui Tel Aviv. D'autres sont allés dans les champs. Ils ont vidé l'eau, les étangs de leur eau. Ils ont planté. Ils ont planté des vignes. Ils ont planté des arbres. Et puis, en 50, en 48, quand le pays est devenu un pays reconnu comme Israël, alors là, beaucoup d'autres ont eu le désir d'y aller. Et ils sont partis les uns après les autres pour aller en Israël, comme maintenant on voit une nation là. Si Dieu a mis ça sur le cœur des Israélites de partir au XXe siècle, c'est parce que Dieu savait que Israël sera né bientôt. Il ne les a pas fait venir des siècles avant, uniquement dans le siècle dernier. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire ceci, que si Dieu a mis sur leur cœur de faire le plan du temple, de faire des meubles du temple, de faire des robes du temple, de chercher les sacrificateurs du temple, de faire tout cela pour le temple, et moi je vais ajouter autre chose. Je suis persuadé que les portes du temple sont déjà faites, et je suis persuadé que toutes les pierres sont déjà taillées et numérotées, prêtes à monter. Je veux dire par cela, c'est que si toutes ces choses se préparent, c'est qu'on est prêt de construire le temple. Et je crois que quand le moment arrive, ils vont venir et construire le temple des quatre côtés à la fois. Vous vous souvenez d'avoir regardé les photos de la construction de Tour Eiffel? Ils ont bâti les quatre pieds en même temps. Et puis ils ont joué, ils n'ont pas fait un, et puis l'autre, et puis le troisième. Je suis sûr qu'avec toutes ces pierres marquées, numérotées, les portes faites, il va y avoir les équipes qui vont travailler les quatre côtés à la fois. Ils vont placer des pierres, et ce n'est pas une question d'années, je crois que ça sera une question de semaines. Ils vont construire le temple. On est très proche. Oui, mais vous dites, oui, mais vous avez raté quelque chose. Il y a des mosquées là. Il faut que les mosquées soient détruites. Et comment ça va se faire? Parce que tant que les mosquées sont là, il n'y a pas de temple, il n'y a rien à faire. C'est vrai. Et des idées sont multiples, ce qui va arriver aux mosquées. Les hommes pensent que ça sera un tremblement de terre. D'autres pensent que peut-être un jour la police va regarder dans l'autre direction et laisser les gens démolir les mosquées. D'autres ont d'autres idées dans une guerre quelconque. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais l'Amérique a annoncé la semaine dernière que la Syrie a livré des missiles Scud au Liban. Et le contre-espionnage israélien a dénoncé ça tout de suite. Ils ont dit non, ce n'est pas vrai. Les Scud sont encore en Syrie, mais à la frontière. Et ils ont fait venir deux équipes, deux brigades. Deux brigades de soldats comment ça, ils s'appellent, pas les talibans, ceux qui sont au Liban. Bref, ce sont pas des Libanais, ce sont des gens qui sont là. Hezbollah. Oh là là. Ils ont deux équipes de Hezbollah en Syrie pour apprendre comment tirer les Scud. Israël a averti Washington que si jamais ils poussent les Scud de l'autre côté de la frontière, Israël enclencherait immédiatement une attaque contre la Syrie et contre le Liban. Alors donc c'est pour ça que ça reste toujours du côté de la Syrie. Mais un de ces jours, qu'on le veuille ou non, on va pousser les Scud de l'autre côté de la frontière. Ces scouts sont capables d'atteindre Jérusalem et Tel Aviv. Et je pense personnellement que c'est très possible que quand ils vont tirer ces missiles, ce n'est pas avec une précision de montre, hein, que ça peut tomber sur des mosquées. Aujourd'hui, le roi de la Jordanie a dit que si Israël ne fait pas la paix, dans les 2 mois qui suivront, il y aura la guerre. Ça, c'était aujourd'hui qu'il a déclaré ça. Pourquoi je dis tout ceci? Pour vous dire, mes chers amis, qu'on est très proche. On est très, très, très proche de l'enlèvement de l'Église. Vous dites, est-ce qu'on va voir le temple construit? Je ne sais pas, j'en doute. Je crois qu'on va partir avant. Mais si vous voyez le temple construit, ou si vous voyez les mosquées détruites, alors faites vos valises. Hein. Vous allez partir presque tout de suite après. Mais il est fort possible que Dieu ne va pas nous permettre de voir rien de cela, que juste avant cette guerre, il va venir monter. Il va venir monter. Et nous allons monter. Nous sommes très près. Très près. Emmanuel va donner beaucoup d'autres signes qui montrent que nous sommes... Ça m'étonne que les chrétiens sont tellement déconcertés, à l'aise en Sion, dit la Bible. Misère, on doit être enflammé, en train d'inviter tous nos amis. On n'a pas beaucoup de temps. Ce que vous pensez faire pour Christ avant l'enlèvement, faites-le maintenant. Hein. Parce qu'il se peut que même avant qu'on termine cette série, on sera au ciel. Quand cela arrivera et on monte, ne croyez pas que ça sera de toute joie. On aura une joie formidable de penser que nous allons voir Christ face à face. Mais en montant, vous allez certainement tourner en arrière et vous allez voir la terre, sachant que toute personne sur la terre est sous la malédiction et qu'ils vont subir la tribulation. Ils sont laissés derrière. Ils sont en route pour l'enfer pour l'éternité. Et ça va vous toucher. Vous allez penser au jour que vous auriez pu parler, vous ne l'avez pas fait. Des choses que vous avez toujours voulu faire, mais vous ne l'avez pas fait. Personnellement, je sais que ce qui va m'arriver, je vais penser à mon ministère. Et quand je donne l'appel et on chante « Tel que je suis sans rien à moi », je sais que nous ne le chanterons jamais plus. Je ne donnerai jamais une autre invitation. Je ne verrai jamais des gens lever la main ni s'approcher. C'est fini pour l'éternité. Et quant à la fin, quand je les invite dans la petite pièce, quand je leur parle de Christ, et quand je leur dis « Est-ce que vous voulez accepter le Seigneur ?» Et quand je les vois baisser leur tête et prier, et puis quand je les vois lever la tête et je vois les larmes qui coulent, et je dis « Alors ?» Et je les vois comme ça, dire oui, avec des larmes qui coulent. Je sais que c'est fini pour l'éternité. Je ne le verrai plus. C'est la dernière fois. Il va venir très bientôt. Ce que vous allez faire, faites-le. Amen.